Eh bien, bonjour. Nous allons donc démarrer cette rencontre autour du thème suivant. Donc, j'essaie de dire l'intitulé exact qui nous est donné. Il s'agit de « Mon ami le robot » avec quatre invités. Alors, il y a eu un tout petit changement dans les invités puisque, au même moment, vous constaterez sur votre programme que le lauréat du prix européen qui a été remis hier soir doit parler de l'autre côté, et il se trouve qu'il s'agit de deux lauréats, hein, Hugo Bellagamba et Vincent Gessler, et Vincent Gessler qui devait être parmi nous se retrouve donc là-bas. Parfois on aurait presque préféré qu'il perde, mais bon, je ne peux pas dire ça quand même. Alors, nous avons donc quatre personnes pour cette discussion. Donc Fabien Rimbaud,
bonjour,
qui est le président de l'association Caliban, qui est une association de robotique, de fabrication de robots humanoïdes et d'observation du monde robotique. Et vous êtes basé dans quelle ville ?
Alors le siège de notre association est à Paris, mais on a des membres un petit peu partout en France et on commence à en avoir aussi en Québec, enfin au Québec et en Belgique.
Voilà. Très bien. Frédéric Boidron, qui est informaticien, qui est également le rédacteur en chef de la revue Planète Robot, et qui ouvre Place du Commerce, pardon, ici à Nantes, un magasin dédié aux robots. Et ce sont les petits robots qu'on voit se balader dans l'allée depuis que nous sommes arrivés. Nous avons également avec nous, pour le côté littéraire, Gérard Klein, qu'on ne présente plus, qui est quelqu'un un analyste très important, un éditeur très important, enfin qui est une des personnes sans qui la science-fiction française ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, qui a entre autres développé toute une réflexion sur ces thématiques-là qu'on peut trouver ici ou là dans divers articles. On peut faire référence à la préface d'Histoire de robots qui date de 1985 si ma mémoire est bonne. Mais enfin, j'ai vérifié juste avant de venir, faut pas exagérer non plus.
Je crois même que c'est plus ancien, ça doit être une réédition.
Ah, je me suis fait avoir. Voilà à quoi ça sert de faire le malin. Voilà à quoi ça mène plutôt. Et donc Ian MacDonald, qui est un écrivain bien connu, qui a un destin d'écrivain un petit peu amusant dans notre pays, puisqu'il y a eu Desolation Road, une longue éclipse dans les traductions d'une vingtaine d'années, et puis il est revenu en force avec ces dernières années, avec Roi du matin, Reine du jour principalement, et cette année également qui a été publiée là à la rentrée en septembre. Un roman remarquable qui s'intitule Le fleuve des dieux. Ouf, je ne me suis pas trompé. Dans lequel apparaissent effectivement des robots. Donc, moi, je suis absolument ravi de pouvoir animer une telle table ronde, puisque le robot fait partie de ces membres du bestiaire de la science-fiction qui n'ont pas qu'une existence imaginaire. Donc la première idée, ce serait de faire un petit point sur c'est quoi la robotique et où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui. Et on passera aussi la parole, bien sûr, à Gérard Klein et à Ian MacDonald, qui peuvent intervenir à tout moment. Mais on va commencer par lancer peut-être Frédéric Boidron en tant que scientifique de la bande, ou Fabien Rimbaud, lequel voudra prendre la parole en premier. Oh, ben, ils se font des politesses, c'est bien. Bon, ben, c'est moi qui tranche, donc, Frédéric.
Donc le robot, c'est un terme en fait un peu généraliste. Personne ne percevra en fait le robot de la même façon. Moi, ma vision à moi du robot, c'est tout objet capable d'avoir une action programmée ou autonome. Ça peut même être à la limite les pantins un peu pardon. Donc certains pantins un peu automatisés, pour moi c'est déjà de la robotique. Je sais que d'autres auront des visions complètement différentes où il faut vraiment que ce soit l'être humanoïde doué d'intelligence. C'est une notion très vague. De toute façon, il n'y a pas de notion bien réelle sur le robot.
Un petit mot, Fabien ?
Alors, ben justement, quand Frédéric parlait de personnes qui ont une vision différente, déjà, c'est un peu le cas au sein de notre association.
C'est-à-dire qu'on est une assoce qui s'occupe de robotique, mais de robotique dans le sens qu'on considère, nous, noble, le sens noble du terme, à savoir les machines qui ont été imaginées, inventées par des auteurs comme Asimov, Clark, ce genre de personnes, à savoir un robot, alors pas nécessairement humanoïde, mais avec une intelligence artificielle qu'on qualifie dans les laboratoires de type Fort. Les machines dont parle Frédéric, qu'on désigne à mon sens de façon erronée sous le terme de robots, sont pour moi des automates. C'est au final de superbes jouets et pour ceux qui sont utiles, c'est de l'électroménager. Donc nous, ce qu'on s'attache au sein de notre association, c'est à permettre à faire connaître la robotique qui nous semble noble, celle qui fait généralement rêver les gens dans les romans de science-fiction et qui commence à apparaître dans les laboratoires. Donc ces intelligences artificielles, comme juste pour vous présenter un petit peu ce qui se passe en labo, il en existe deux types. Il y a les intelligences artificielles dites faibles et les intelligences artificielles dites fortes. Les intelligences artificielles faibles, IA faibles, généralement, c'est des systèmes qui sont capables d'apprendre, d'évoluer et d'élaborer des stratégies en réponse à un problème donné, mais dans un cadre qui a été défini par son équipe de développement. Là où ça devient intéressant, c'est intelligence artificielle forte. C'est rempli exactement les mêmes contraintes, donc un système capable d'apprentissage, d'élaborer des stratégies à un problème, sauf que ça peut être dans un cadre complètement inédit. Autrement dit, le robot est capable d'analyser, synthétiser et modéliser son environnement et à partir de ses acquis, élaborer des stratégies inédites qui n'avaient pas du tout été prévues par les développeurs. Donc nous, au sein de notre assos, quand on parle de robotique, c'est à cela qu'on s'intéresse. Et donc on se positionne à la fois en tant qu'acteur, c'est-à-dire qu'au sein de l'association, on a nos propres travaux, mais aussi en tant qu'observateur, c'est-à-dire qu'on discute pas mal avec des patrons, des dirigeants d'entreprises robotiques, des chercheurs dans les laboratoires, pour savoir un petit peu où se positionnent les choses, et notamment s'en faire l'écho auprès de vous, et notamment lors de meetings, faire connaître ce genre de choses, montrer que c'est toujours de la science-fiction, mais qu'on sait aujourd'hui que ça va être une réalité très bientôt.
Gérard Clave va intervenir.
Alors là-dessus, je dois dire que je vais apporter la contradiction parce que je suis extrêmement partagé sur ce thème. D'une part, comme auteur et écrivain de science-fiction, les robots tiennent une place immense. Il y a des centaines, même des milliers d'histoires de robots pour lesquelles nous avions, il y a presque 40 ans, choisi celle des histoires de robots. Donc, La place dans la littérature des robots et de l'intelligence artificielle est considérable. À l'inverse, j'ai beaucoup étudié la question de l'intelligence artificielle et fréquenté quelques-uns de ses experts, en particulier pour un projet de livre. Et s'il y a une chose dont je suis profondément convaincu, c'est que l'intelligence artificielle au sens fort n'interviendra probablement jamais et qu'en tout cas nous n'avons pas le début du commencement, de l'aube d'une réalisation dans ce domaine. Alors j'entends bien qu'il y a des machines, des robots, des programmes qui disposent d'une certaine autonomie. Ça s'étend d'ailleurs au domaine de l'art, où mes amis du Cube, enfin les Osiosmanov, font des choses tout à fait remarquables. Il est tout à fait vrai que certaines machines sont capables de se déplacer, par exemple, en milieu inconnu et d'avoir des comportements relativement imprévisibles, mais enfin imprévus plutôt qu'imprévisibles, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Cela étant, nous ne savons pas du tout ce que c'est que l'intelligence humaine et même animale, et nous sommes absolument incapables de la simuler, sauf dans des conditions extraordinairement restrictives. Donc je ne crois pas à l'intelligence artificielle. Au sens du programme initial dans les années 50, il y a 20 ans, parmi les trois objectifs, disons, que la science-fiction proposait à l'humanité, l'intelligence artificielle, le voyage interstellaire, le voyage dans le temps, j'aurais classé ces objectifs dans cet ordre, comme dans le cas de leur apparition vraisemblable. Aujourd'hui, j'ai complètement inversé les priorités après avoir beaucoup étudié la question et d'ailleurs participé à quelques tables rondes. Je crois que le voyage interstellaire est envisageable à plus ou moins longue échéance. Le voyage dans le temps aussi, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éloigné.
Alors on va peut-être passer la parole à Ian McDonald. Ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un écrivain. Moi, je me suis fait une réflexion ces derniers temps. J'ai eu l'impression que le robot n'apparaissait plus beaucoup ces dernières années dans la littérature de science-fiction. Du moins, il n'y a plus dans la littérature eu ces dernières courtes années de grands romans avec des robots. Bon, du coup, maintenant, il y a Cygnis de Vincent Gessler, évidemment. Il est omniprésent au cinéma, à la télévision et même en bande dessinée. Il y a beaucoup de robots, très peu en littérature et assez peu dans l'œuvre traduite en français, du moins, de Ian MacDonald. C'est un personnage qui pose problème, le robot, l'intelligence artificielle. Déjà, on va se concentrer sur le personnage du robot et ensuite on s'interrogera sur l'intelligence artificielle qui est là plus fréquente dans la littérature.
Yeah, I think somehow science fiction lost the robot. It's as Gerard was saying, there are thousands, possibly millions, of science fiction stories about humanoid robots, usually humanoid robots as well. And then after a while, I think maybe around about the dawn of cyberpunk in the 1980s, they kind of disappeared from Western science fiction. The artificial intelligence, the brain in the box, you know, Neuromancer and Wintermute. We'd have trouble translating those. the disembodied artificial intelligence then became the kind of sigil of the thinking machine in the West, as intelligence moved from robot to computer, as computers became the kind of thinking machine that we all could get and could carry around in our pockets, and that became commercially available. And robots, I felt, moved then to the East, and it was the great Japanese kind of tradition of giant robot versus Godzilla. Let's try and destroy Tokyo in one take this time, shall we? Because we've run out of budget. That kind of became the kind of dominant metaphor, you know, the giant robot or the piloted robot. Like Pat Labor and Evangelion, Neon Genesis, and all that kind of stuff. The mecha then became the kind of robot that we were seeing in fiction. And it's only recently that, as kind of Japanese popular science fiction culture has kind of penetrated the West, that robots have come back to us in a totally new form. The robots we have today, the ones we see, are based mostly on kind of Japanese imaginings of how robots like. And interpreted pretty much through kind of Japanese culture. So the robot is back, you know, having had a nice time in Japan, and it's got new things to say to us, and we have now new ways of looking at it, because they've become things we can own as well. You know, we can have a robot that vacuums your room. We can have the robot like the one we saw yesterday, the robot dinosaur that will wave its paws at you and purr when you tickle it. They've become things we all now can have. That's about it, yeah, really. Robots went to Japan and came back again and changed.
Mais c'est étonnant, cette disparition du robot dans la science-fiction, parce que c'était d'une symbolique extrêmement riche. Le robot, surtout humanoïde, et on peut faire un distinguo entre robot mécanique et robot biologique, le robot biologique, c'est nous. Sans être nous. Et en termes de métaphore, en termes de symbolique, il y a eu des choses très très fortes qui ont été écrites. Je pense à Philip Dick, évidemment, et je pense même à la fin de l'adaptation cinématographique Blade Runner, avec cette scène de la mort du robot. Moi je l'ai vu quand j'étais ado, l'année où il est sorti, où je savais pas si je devais, c'était l'émotion la plus totale. On savait pas si on se devait se réjouir de la mort de ce qui se révèle être un tueur, ou si on est juste bouleversé par le drame de cet homme qui meurt. Donc.
Oui, je peux. Oui, en ce qui concerne Blade Runner, et puis le Philip K. Dick, je crois qu'il y a une distinction très importante à apporter, c'est qu'à proprement parler, les personnages de Blade Runner et d'où Android Stream of Electric Sheep ne sont pas des robots. Ce sont des réplicants, pour employer le terme initial, c'est-à-dire en quelque sorte des clones d'humains qui ont été modifiés, défabriqués. Je crois que c'est une distinction très fondamentale. Alors, il y a des raisons éthiques qui s'opposeraient évidemment à ce genre d'intervention, mais ça n'a rien à voir avec la fabrication d'un robot entre guillemets intelligent qui a été fréquemment utilisé en science-fiction. Alors sur le point de la raison pour laquelle le robot classique a peut-être pratiquement disparu de la littérature de science-fiction, pour les échanges que j'ai pu avoir avec des auteurs, beaucoup se sont rendus compte de l'extraordinaire difficulté, du très grand éloignement de l'aboutissement éventuel du programme, et ont donc renoncé. En même temps, la scène s'est déplacée du côté des gens comme Kurzweil, qui a été d'ailleurs un grand chercheur, mais qui, à mon avis, est un illuminé total aujourd'hui, qui annonce que dans 20 ans ou 30 ans, on va atteindre la singularité de mon auteur et ami Werner Vinge, parce qu'il y aura une puissance de calcul qui égalera ou déplacera celle du cerveau humain. Alors là, il faut tout de suite dire une chose. En admettant qu'il y ait en effet plus de microprocesseurs qu'il n'y a de cellules dans un cerveau humain, ça ne suffit pas du tout. Tout le problème, c'est celui de leur organisation. Il y a, pour autant qu'on sache, chez un débile profond, autant de cellules du cerveau que chez une super intelligence, chez quelqu'un de supérieurement intelligent. Malheureusement, ils ne sont pas organisés de la même manière et on ne sait ni comment ni pourquoi.
Voilà, que peuvent en dire
Alors, déjà, en fait, ce que je voudrais, c'est. Je comprends votre point de vue. Ce que je voudrais, c'est en fait juste rebondir, c'est que déjà, je suis frappé par ce pessimisme en fait par rapport à cette discipline. Ensuite, concernant la problématique de la puissance de calcul, je serais tenté de dire que finalement la puissance de calcul est un faux problème, puisque justement la problématique, comme nous l'expliquait Gérard Klein, c'est par rapport à la complexité. Et en fait, la robotique, et plus particulièrement l'intelligence artificielle, parce que c'est l'évidence, la robotique et l'intelligence artificielle sont deux disciplines distinctes, où on peut considérer que le robot humanoïde, dans le sens iRobot comme le film, serait un peu la quintessence de l'union de ces deux disciplines. Mais concernant l'intelligence artificielle, elle est particulièrement passionnante parce qu'elle permet à l'être humain d'investiguer sur le troisième infini, à savoir jusqu'à présent on est quand même plutôt pas mal calé au niveau de l'infiniment petit et l'infiniment grand. La robotique cognitive, l'intelligence artificielle, nous permet d'appréhender le troisième infini, à savoir l'infiniment complexe. Et effectivement, l'esprit humain peut sembler comme étant a priori une des choses les plus complexes à analyser et à comprendre. Ceci dit, effectivement, ce n'est pas quelque chose l'IA forte, donc une IA forte dans noble, à savoir capable, pas de rivaliser avec nous, mais de coopérer avec nous en bonne intelligence, c'est-à-dire capable de soutenir une discussion, d'avoir ses propres idées et opinions. Effectivement, ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas pour dans 2 ans, ce n'est pas pour dans 5 ans. Tout à l'heure, je ne sais plus...
Ni pour dans 100 ans.
Eh bien, justement, c'est là que je ne suis pas d'accord. Après, il y a d'autres personnes aussi qui ont ce point de vue. De toute façon, c'est un débat qui est très agité, qui agite beaucoup la communauté scientifique. C'est-à-dire que généralement, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont prudentes par rapport à ça, par rapport aux avancées qui peuvent être faites par rapport à la robotique, déjà parce qu'elles veulent pas s'avancer des masses, et aussi pour des histoires de budget. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des laboratoires et qui finalement ont des contraintes à tenir et des objectifs à atteindre. Et comme ce sont des personnes intelligentes, ils n'en promettent pas trop pour être sûr de pouvoir les atteindre et donc obtenir les budgets pour les travaux suivants. Ceci dit, sans considérer la puissance de calcul, l'espace de stockage et le problème fondamental, ce qui a notre sens au sein de l'association qu'on a identifié en tant que tel, c'est le problème de l'indexation des données, c'est-à-dire pouvoir retrouver les données rapidement. Parce que la robotique, en fait, c'est l'intelligence artificielle, on va dire, que ça se base sur une infinité de données partielles et non pas une grosse data ou un gros fichier qui se retrouve facilement. Donc le frein qu'on a identifié majeur, c'est l'indexation des données. Là, c'est un réel problème. Après, au niveau de la complexité, on va dire que commence à y avoir des modèles dérivés de la physique qui permettent de commencer à appréhender l'infiniment complexe. Je pense que ça va être une discipline scientifique qui va exploser au cours du 21e siècle, tout comme la physique quantique a été la science reine du 20e siècle. Il y a de fortes chances que l'analyse de l'intelligence artificielle soit la discipline reine du 21e siècle. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Je serais tenté de dire qu'en 1900, ils n'avaient pas les moyens non plus d'aller sur la Lune, et pourtant, ils l'ont fait 60 ans plus tard.
Là, je m'inscris totalement en faux. parce que en ce qui concerne le voyage vers la Lune, ils n'en avaient pas les moyens technologiques, mais ils en avaient d'une façon complète les moyens intellectuels de le calculer. Tsiolkovsky, dans les années 1890, le fameux russe, le montre dans plusieurs livres et il y décrit également des satellites artificiels en indiquant qu'ils permettront, il ne pense pas aux communications, la radio n'est pas encore, n'existe pas encore, mais l'observation de la Terre. Donc ça, nous sommes dans une situation complètement différente. En ce qui concerne la physique quantique, domaine que je connais un peu, c'est un peu la même chose, c'est pas sorti comme c'est pas... Les gens se sont pas dit on va inventer la physique quantique. Ils ont été confrontés à des problèmes d'observation qui n'étaient pas compatibles avec la physique classique. Et il s'est produit à ce moment-là, principalement dans les années 20, une véritable révolution intellectuelle. Ici, avec cette prétention insoutenable, celle de Minsky que je n'ai pas rencontré mais que j'ai publié comme auteur dans les années 50, avec cette prétention insoutenable de l'intelligence artificielle, nous sommes en présence de quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas dans de l'observation de la nature, parce que j'ai une formation assez solide de psychologue, ce n'est pas de l'observation du cerveau humain que nous tirons rien, que nous tirons quelque chose, plutôt en dehors de quelques aspects neurologiques, enfin les systèmes neuronaux, bon, qui ne vont pas très loin, qui sont extraordinairement localisés. Bon, ce n'est pas de l'observation de la nature, de la rencontre d'une difficulté dans la nature que nous tirons quoi que ce soit en ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'est une prétention qui a été constituée dans les années 50 à des fins d'obtenir des budgets scientifiques. On a dit aux militaires, on va vous fabriquer des machines intelligentes qui feront la guerre à votre place. Et des milliards de dollars ont été littéralement gaspillés là-dessus. Et en France même, au CNRS, il y a un département important dont la seule objection qu'on m'a faite dans un débat il y a quelques années à ce propos, où je maintenais la position que je défends aujourd'hui, ça a été, mais enfin Gérard Klein, si on vous écoute, on va mettre 1000 personnes au chômage. C'est pas ce que j'appelle une objection scientifique.
Moi, je vais faire le candide, alors, du coup, maintenant, pour un petit peu nourrir différemment ce débat. Finalement, si on réfléchit bien, un robot, c'est un outil. Pourquoi lui demander plus ?
Absolument. Mais absolument, ça. Alors là, en ce qui concerne la possibilité de fabriquer des outils extrêmement efficaces à des fins bien définies, alors ça, je ne le discute pas une seconde. Le problème des machines, parce qu'il ne s'agit que de machines et des programmes, c'est qu'ils ne sont pas polyvalents. Et que le robot de la science-fiction, celui qui assiste l'homme, par exemple chez Asimov, mais chez bien, bien d'autres auteurs, c'est qu'il est aussi polyvalent qu'un être humain. Il est, en fait, c'est l'esclave idéal.
Alors,
vas-y.
C'est juste au niveau...
Ian McDonald a quelque chose à dire, peut-être on va lui passer la parole.
Yeah. I was going to say, it's possibly interesting that the classic Asimov robot developed in a society with a recent history of slave owning, which is kind of a way of thinking about it. That basically, maybe the U.S. robot, as we say, the general robotics multipurpose humanoid robot, is basically it's part of the old slave owning culture that hasn't really gone away from the American way of thinking. For me, I am quite happy to have lots of little different robots all doing lots of little different kinds of things. I think I would find the idea of a humanoid sitting around waiting for me to order it to do something creepy, and I just know it would be very, very bad for my psychology as well. It would make me into a bad person, having one of those around.
Ouais, sinon pour moi en fait comme je disais, la robotique, c'est, ça peut être même quelque chose de très basique. Effectivement, un robot aspirateur, c'est déjà de la robotique. Effectivement, il a une intelligence artificielle qui n'a absolument rien à voir avec celle décrite dans les romans de science-fiction. Mais justement, après, à la limite, qu'est-ce qu'on peut appeler l'intelligence artificielle ? Parce que ça peut être juste, effectivement, comment nettoyer au mieux une pièce, ou effectivement, est-ce que ça peut être tout simplement la conscience ? Est-ce qu'un jour, le robot pourra avoir la conscience de lui-même ? Est-ce qu'il aura la conscience du monde ? Et la conscience qu'il vit et qu'il a sa propre existence. Après, il y a plusieurs débats là-dessus. Et c'est pareil, est-ce qu'on peut pas avoir une création d'intelligence artificielle à base d'une structure biologique. Est-ce qu'on ne peut pas partir d'un cerveau, entre guillemets, d'un cerveau ou d'éléments d'un cerveau animal ou humain et créer donc de l'intelligence artificielle à base de, voilà, je sais pas, de, là je parle de clonage peut-être, voilà, juste d'éléments du cerveau. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de recréer cette interface d'une façon liée à la robot, à l'électronique? Est-ce qu'il n'y a pas un interfaçage possible entre les deux?
Mais là, du coup, je remets la balle du côté de l'imaginaire, pour être plus précis, en posant la question suivante: est-ce souhaitable de créer une intelligence artificielle au sens propre d'intelligence, au sens de la conscience?
Alors, à la limite, une intelligence artificielle en elle-même, est-ce qu'elle peut poser problème? Puisque une intelligence artificielle, déjà, elle peut être déjà très complexe. Elle nous dépasse. L'intelligence artificielle dépasse déjà l'humain sur certains domaines. Au jeu d'échecs, on a déjà parlé hier.
Non. Les programmes d'échecs, j'en dis Blue et tout ce qui a suivi, ne sont en aucune manière intelligents, d'une part. Ça, c'est une première chose très importante à dire. Ils ont une puissance de calcul qui leur permet d'explorer un très grand nombre de possibilités de jeu, mais ils n'ont aucune intelligence. D'autre part, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, derrière ces programmes, il y a une très vaste collectivité d'humains. Ça consiste à indexer, pour reprendre le terme de mon voisin de tout à l'heure, un très grand nombre de solutions qui ont été explorées par les grands joueurs du passé et par les joueurs qui fabriquent ces programmes. Mais il n'y a aucune intelligence dans les programmes de jeu d'échecs, ou bien dans ceux qu'on est en train d'essayer de développer parce que c'est plus compliqué pour le jeu de Go. Il n'y a aucune intelligence. Ou alors, il y a de l'intelligence dans une table de multiplication. Il y a certainement de l'intelligence dans ceux qui ont produit les tables de multiplication et puis tout ce qui s'en est suivi, mais il n'y en a pas dans les programmes jeux d'échecs. Et si je réagis avec cette vigueur, c'est parce que je n'aime pas qu'on laisse dans le public s'instaurer un certain nombre d'idées fausses. Et la question de savoir s'il est souhaitable ou pas de créer une intelligence artificielle, et entre l'intelligence et la conscience, il y a encore un vaste fossé, mais enfin, on ne va pas explorer ça maintenant. La question, si c'est souhaitable ou pas, en réalité, elle ne se pose pas. Il y a des problèmes éthiques dans d'autres domaines, mais là, elle ne se pose pas parce qu'il n'est pas question d'en fabriquer une.
Ouais, parce qu'à la limite, il ne faut peut-être pas quand même y réfléchir pour le cas où. Il y a peut-être, parce que tel que je le vois, je pense que le débat quand même doit être lancé, et c'est de voir justement le côté éthique qu'il peut y avoir derrière. Bon, il y a les fameuses trois lois asimoviennes, mais c'est un peu trop simpliste pour.
Non, mais les lois d'Asimov sont intéressantes. Enfin, j'ai écrit d'ailleurs à partir des lois d'Asimov une très brève histoire qui tient en trois lignes, donc je peux même pas vous la résumer ici, qui est là. Bon, on insère dans un robot les trois lois d'Asimov. Enfin, j'espère que vous les connaissez. Si vous connaissez pas, ça a beaucoup d'importance. Qui consiste à définir d'un point de vue légal plutôt qu'éthique ses relations avec les êtres humains. Alors on réveille un robot, le premier robot intelligent qu'on a réussi à fabriquer, et de façon à pouvoir obéir à ces trois lois, il pose une question entièrement logique: qu'est-ce que l'homme? Il n'a jamais reçu de réponse.
Bon, moi je voudrais rebondir un petit peu sur toutes les choses que j'ai entendues. C'est alors déjà que vous vous inscriviez en faux sur la problématique effectivement de considérer les jeux d'échecs comme de l'intelligence artificielle. Je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, c'est de la calculatrice. Ceci dit, il existe quand même des programmes et des approches d'intelligence artificielle complètement inédites qui, pour l'instant, ont des résultats médiocres, mais qui ont le mérite d'être prometteurs. Je pense par exemple à la robotique développementale, qui est une approche de l'intelligence artificielle synthétiquement, par le contact social, qu'en fait l'intelligence naît du contact social, qui est une discipline qui est assez, qui promet quand même des résultats. Est-ce que c'est la bonne piste? Reste à savoir.
De quel type de contact social s'agit-il?
Le contact...
société des robots?
Non, le contact avec autrui. Par exemple, j'ai eu une discussion vraiment très très intéressante. J'en suis ressorti assez ébloui d'une discussion avec Jean-Christophe Bailly, qui est assez connu pour ceux qui sont un petit peu dans le monde de la robotique, qui nous parlait d'un, donc qui est chercheur, mais qui est aussi PDG de la société Ghosteye, qui développe des logiciels pour robots. Et en discutant avec lui, il nous avait présenté donc un de ses projets, en fait, où c'était deux de ses logiciels d'intelligence artificielle qui ne connaissaient rien, mais qui étaient juste capables d'établir des différences, c'est-à-dire remarquer que par rapport à la situation normale, telle chose est différente. Et synthétiquement, il a réalisé quelque chose, je crois, qui est à la base du rêve de tous ceux qui veulent se lancer dans la robotique. C'est qu'il a pris deux de ses intelligences et en gros, il les a mis l'une face à l'autre et puis il les a laissées faire. Et ces machines ont commencé à échanger des informations entre elles jusqu'à créer leur propre langage. Un langage qui serait complètement incompréhensible pour nous, mais elles ont créé leur propre protocole de communication où, par exemple, elles ont été stimulées en leur montrant un carré rouge. Et elles ont commencé à échanger, en fait, et à se mettre d'accord sur la signification de ce que c'est qu'un triangle, qu'un rond, qu'un carré, que le bleu, le jaune, ce genre de choses, dans leur propre langue. À mon sens, avec ce genre de système, on peut d'ores et déjà commencer à parler, pas d'intelligence artificielle forte, mais il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les machines ont juste été conçues pour observer et établir des liens de différence. Et à partir de là, elles ont élaboré, on va dire, leur propre société, certes très primitive, juste entre deux machines avec un langage très de base, mais c'est quelque chose. Et là, en fait, c'est juste une expérience réalisée par un laboratoire français. C'est sans prendre en compte tout ce qui se passe à travers le monde et dans les différents laboratoires. Donc déjà, cette machine-là, évidemment qu'elle se ferait éclater aux échecs par Deep Blue, mais on ne parle pas du tout du même type d'intelligence. Après, concernant l'utilité des machines, ce qu'il faut voir, c'est que si on part du principe que le robot est équipé d'une intelligence artificielle faible, ça sera de l'électroménager, donc il sera nécessairement utile. Après, qu'il soit capable de passer l'aspirateur ou ce genre de choses, à la rigueur, on s'en moque, c'est juste les performances qui sont en hausse ou pas. Concernant l'utilité de l'intelligence artificielle dite forte, et à plus forte raison, mais effectivement, on va pas lancer le débat là-dessus, sinon on y est encore demain, mais de la conscience artificielle, l'utilité, moi, elle me semble évidente, c'est déjà nous permettre de comprendre, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, une approche de l'infiniment complexe, mais aussi de comprendre de quelle façon un système inerte aboutit à la pensée, et je pense très synthétiquement que c'est le genre de système avec lequel on pourra philosopher jusqu'à la nuit des temps, parce qu'ils auront nécessairement, si tant est qu'ils existent un jour, ils auront nécessairement une vision, une perception de l'univers et une approche de l'univers différente de la nôtre, et que finalement, ils seront peut-être les copains qu'on cherche partout. Certains le cherchent en Dieu, certains le cherchent dans les extraterrestres. Ça pourrait être potentiellement nos partenaires pour ne plus être seuls.
On va éviter la crise cardiaque à Gérard.
Non, ma tension est très bonne, je vous rassure tout de suite là-dessus. Non, mais comme vous l'avez bien compris, ce n'est pas du tout la robotique, y compris extraordinairement sophistiquée, qui connaîtra des progrès considérables, qui me gêne ici. C'est l'emploi à tort et à travers du terme d'intelligence, qui en plus est extraordinairement mal défini, y compris pour les gens comme les psychologues, dont c'est le métier. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'a dit mon voisin, enfin mon quasi-voisin, c'est que ces deux programmes observaient. Alors, observer, ça implique un sujet qui observe. Il n'y a pas de sujet là. Et ça renvoie à une question extraordinairement importante, non seulement d'ailleurs pour les gens qui écrivent des programmes, mais par exemple pour la théorie de l'évolution, qui est la question de l'intentionnalité. Les êtres humains, et pas seulement les êtres humains, ont une intentionnalité, c'est-à-dire qu'ils ont des buts qui sont importants, qui sont comme celui de créer telle machine, ou qui ne sont pas importants, mais il y a une intentionnalité. Chez un chat, par exemple, moi j'aime beaucoup les chats, évidemment chez les chiens aussi, mais enfin vous me permettrez de préférer les chats, il y a une intentionnalité. Quand mon chat, qui s'appelle Aurore, veut être nourri, il vient se frotter à mes jambes, il me donne toutes sortes de signes d'affection, et puis il me conduit vers sa gamelle. C'est une intentionnalité. Et le problème de la théorie de l'évolution, c'est qu'on ne sait pas du tout quand cette capacité, l'intentionnalité, est apparue. En tout cas, ce qu'on sait de façon certaine, c'est que dans les machines, les programmes les plus évolués que vous voudrez, il n'y a aucune intentionnalité. On ne sait pas faire ça. Et on ne sait pas quand c'est apparu, comment c'est apparu, comment ça fonctionne, on ne peut pas le reproduire dans les machines.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, en fait, comme certains robots qui ont été développés, en Angleterre, j'ai vu un robot donc, qui, pour pouvoir subsister, il est obligé donc, de se nourrir de limaces qu'il va trouver. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, du coup, reprendre votre sujet pour pouvoir survivre, l'intention de survivre, mais après, est-ce que pour survivre, est-ce qu'il ne va pas essayer justement de trouver ces fameuses limaces pour pouvoir recréer de l'énergie pour pouvoir survivre?
Non, il n'y a pas d'intentionnalité là. Il y a des programmes qui sont finalement extrêmement simples. Je suis suffisamment vieux pour avoir connu les renards électroniques d'Albert Ducrot et les machines de Gray, Gray Watts, son nom m'échappe maintenant, qui a été un des pionniers de la robotique et de la robotique intelligente. Alors, Albert Ducrot, par exemple, avec ses renards électroniques, prétendait avoir reproduit le mécanisme du réflexe conditionné ou conditionnel, ça dépend des auteurs. Enfin, ça, bon. Mais en réalité, comme je l'ai démontré un peu à sa confusion, il avait simplement un condensateur. C'est-à-dire, quand un certain nombre de charges électriques s'étaient accumulées, son renard avait un comportement, mais qui n'était en aucune manière adapté ni rien. C'était un circuit très simple. Maintenant, on a des circuits beaucoup plus compliqués. Mais ça fonctionne fondamentalement exactement de la même manière. Il faut bien que le public comprenne qu'un ordinateur, c'est un programme, c'est une grande série, c'est un très grand nombre d'interrupteurs qui sont allumés ou qui sont éteints. C'est oui ou c'est non, c'est un ou c'est zéro. Mais ça n'est, quelle que soit la complexité du programme, même s'il y a des millions de lignes, ça n'est jamais que le fonctionnement d'une batterie gigantesque d'interrupteurs. Alors, pour autant que nous sachions, et là-dessus, nous ne savons pas grand-chose, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les cerveaux biologiques, et en particulier le cerveau humain. Alors, des gens extrêmement éminents comme Roger Penrose se sont lancés dans des hypothèses qui sont pour le moins audacieuses, quant à l'apparition de phénomènes quantiques dans les microtubules du cerveau. Bon, là, je ne m'engagerai pas là-dessus. Mais encore une fois, il faut bien voir qu'il n'y a pas plus de complexité dans le programme le plus gigantesque qui ait jamais été écrit que dans l'interrupteur avec lequel vous allumez et éteignez la lumière. Je prends la complexité dans un sens réducteur que mon voisin va certainement contre lequel il va certainement protester.
Alors, une courte protestation, comme ça on passera la parole au public. Et puis moi, j'adore cette idée du robot limaceau propulsé, je dois dire. C'est un truc.
Donc, contrairement justement à ce que vous dites, je vais pas vous contredire. C'est effectivement, je suis d'accord sur le principe. Après, vous parlez du fait que la machine soit capable intentionnalité, voilà, ce terme-là. Moi, je vais juste dire, alors le mot est mal utilisé, mais finalement, c'est pas qu'il est mal utilisé, mais après, il peut être contredit. Imaginons donc que, par exemple, l'homme avec son intelligence, et même le chat dont vous parliez, il y a un système de pulsion par derrière. La question que je vais poser, c'est la complexité qui est à l'origine de ces pulsions, auquel l'intelligence sert d'outil pour apporter une réponse, où est-ce qu'elle se situe? Si cette pulsion doit se résumer à un système d'une complexité infinie, à ce moment-là, on touche au divin. C'est-à-dire que du coup, on rentre dans le mystique, auquel cas, c'est un sujet sur lequel je ne m'engagerai pas. Soit c'est une complexité finie, auquel cas, il faut continuer les recherches et il faut continuer à travailler dessus. Et même si l'intentionnalité peut s'expliquer, c'est pas pour ça que ça lui enlève de sa superbe.
Non, mais dans votre discours, je serai très bref, mais dans votre discours, il y a un terme qui me gêne énormément, après celui d'intelligence, c'est celui d'infini. Parler de complexité infinie, ça n'a aucun sens. Il faut bien.
Je suis d'accord.
Bon, je suis familier de la théorie des ensembles de Cantor, etc., avec toutes les difficultés que ça représente. Donc, écartons le terme d'infini et dans la foulée, celui d'intelligence. Parlons de robotique élaborée, de tentatives pour donner à des machines des conduites adaptées. Enfin, parlons de tout ce qu'on voudra. Mais écartons ces termes parce que ces termes, moi j'ai fait des dizaines de tables rondes et de conférences là-dessus, ces termes induisent complètement le public en erreur. Et ça, autant j'aime la science-fiction et tout l'imaginaire qu'elle représente, autant moi je n'accepte pas l'imposture.
Bon, plutôt que d'imposture, on va parler de facilité liée à l'habitude.
Non, mais ce sont des facilités, il faut bien le rappeler, et je l'ai un peu vu en France, et c'est évident dans l'histoire du domaine aux États-Unis, qui sont liées à des demandes budgétaires. C'est-à-dire en présentant des buts inaccessibles à des gens dont l'inculture scientifique est monumentale, elle, et avoisine l'infini, je l'accepte, bon, on obtient des sous. Bon, mais pour faire des trucs qui mènent nulle part, et à la limite, ça relève du gaspillage. Cela dit, encore une fois, en robotique, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, qui est la robotique chirurgicale, qui est quelque chose qui se développe à vitesse grand V, et ça me paraît quelque chose de tout à fait fondamental. En robotique, on a fait et on va faire des progrès considérables, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence.
Parfait. Alors, on va passer à la question publique, là, c'est... pour ce débat passionné qui va sûrement se poursuivre sur le même ton, puisque j'attends avec impatience les questions du public. Donc il y a déjà le monsieur qui levait la main depuis un moment, peut-être, et puis on reviendra sur vous après, excusez-moi. Non plus. Non, vous, puis vous avez un joli chapeau, alors vous pourriez même vous lever pour que tout le monde voit.
Ça va être en fait plus des remarques rapides que de vraies questions. Mais par exemple, là, il y a eu un problème de vocabulaire qui s'est présenté pendant tout le débat. C'est la question, la notion d'intelligence artificielle, c'est une notion purement théorique. Ce qui a été appelé l'intelligence artificielle faible, ce serait peut-être mieux d'utiliser la notion de système expert, puisque c'est un terme qui existe et qui est utilisé dans l'industrie d'ailleurs.
Les systèmes experts sont un type d'intelligence artificielle faible. Ils ne sont pas l'ensemble des intelligences artificielles faibles. Ils sont une composante, c'est une solution d'IA faible parmi d'autres.
Voilà. J'ai travaillé sur des systèmes experts je ne les qualifierais pas d'intelligents au surplus en dehors de quelques domaines très étroits. Et encore, comme le diagnostic médical, c'est une approche qui est presque abandonnée parce qu'elle n'a pas du tout correspondu aux espoirs qui étaient légitimes à l'époque qu'on a fondés sur elle. Hein, il faut pas. Mais enfin, c'est des systèmes mécaniques. On essaye d'explorer les réactions, les choix intuitifs d'experts et pour voir si on peut les analyser, les systématiser, enfin, et en faire des programmes. Enfin, il ne faut pas non plus se raconter trop d'histoires là-dessus. J'ai été interrogé pendant des jours entiers par de prétendus spécialistes du domaine qui voulaient essayer de systématiser le choix des livres dans l'édition. Bon, ils ont prétendu par la suite à leur bailleur de fonds que j'avais gardé par devers moi des secrets essentiels, ce qui n'a aucun sens. Je publie comme éditeur des livres qui me plaisent et je ne sais pas toujours pourquoi.
Merci.
Alors attendez, donc, j'avais une autre chose que je voulais dire en réaction, en réponse à votre intervention tout à fait remarquable, c'est qu'il y a un terme qu'on n'a pas utilisé, que j'ai également pas mal étudié, et qui me paraît très important, c'est celui de la vie artificielle, c'est-à-dire la recherche ascendante. Ça consiste à essayer de faire une machine qui serait aussi intelligente qu'une fourmi. Parce qu'il y a une intelligence, bon, enfin, c'est un autre problème, mais enfin, dans la fourmi, bon, pour l'instant, aucun ver de terre. Bon. Et puis à partir de là, faire grimper. Et les théoriciens de la... Francisco Varela s'est beaucoup penché là-dessus, malheureusement il est mort il y a déjà longtemps. Les théoriciens de la vie artificielle étaient, je crois, tous d'accord sur l'idée que si on arrive par cette voie ascendante, on ne saura pas comment ni pourquoi. Mais d'une certaine manière, ça reproduit ce qui s'est passé dans l'évolution. Notre intelligence, aussi médiocre qu'elle soit, est le produit d'au moins 500 millions d'années de travail.
Oui, la question de l'émergence, en fait. Et bon, bah, ça revient un petit peu à ce que à ma remarque suivante, parce que j'allais parler de l'auto-évolution et l'auto-complexification. On sait faire des systèmes qui s'auto, qui évoluent d'eux-mêmes en fonction de ce qui leur arrive de l'extérieur. Après, si on ne met pas de limite au type d'évolution qu'ils peuvent avoir, ça n'a strictement aucune raison d'aboutir à quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appelle de l'intelligence. En revanche, si on vise vraiment à faire quelque chose qu'on pourrait appeler de l'intelligence, et là, la question de la conscience de soi a été posée, mais en fait, de toute façon, déjà, on ne peut pas savoir si les autres personnes qu'il y a autour de nous ont une conscience d'eux-mêmes. On est obligé de le supposer parce que le solipsisme, c'est une philosophie stérile et finalement très chiante. Mais mais le seul critère qu'on peut avoir, c'est le test de Turing.
On va passer la parole à Ian MacDonald qui veut intervenir.
Yeah, it's interesting you're talking about that actually. I think neuroscientists and researchers into consciousness are discovering that we vastly overrate our consciousness, and we vastly overrate the consciousness of other creatures as well. Gerald's cat is probably more intelligent than my cat, but I don't ascribe any great intentionality to my cat when it wants fed, except that it will do anything to get fed, and that is the way that domestic cats have evolved over the years in conjunction with human beings. Current thinking in consciousness research seems to argue that our consciousness is very much illusory, and that it's kind of born out, others may back me up here, that it's kind of born out of that, in a sense, I'll backtrack a little bit. In a sense, Freud was almost right in that he divided the mind up into different sectors, ego, id, superego. But recent research is more complex in that there are many, many different areas of the brain that have control and executive command over aspects of our life and of our cognition, and that kind of consciousness is kind of shared between these different modules, and that, there's a very simple psychology test they do which kind of seems to show that our consciousness lags behind reality. It's done with a couple of pins, but I think we're conscious of the world maybe a tenth of a second after a stimulus happens. So in fact, what we're conscious of is the past. We never entirely live in the present. Our brains live in the present, and our autonomic responses live in the present and react that way. But our consciousness is actually much more vague, much more illusory, and kind of much more kind of broken up thing than we think it is. It's probably the natural way that humans look at ourselves. I mean, we tend to look at ourselves as the supreme peak of evolution. Here we are, you know, we are our brains are the most complex structures in the universe. But there's also a sense that after 500 million years of evolution, there isn't that much intelligence around, not including everyone here, of course, and that maybe intelligence is only a short-term thing in biological life, that we may evolve away from intelligence, in a sense, because DNA doesn't care about intelligence. All the DNA cares about is furthering itself. And if a stage comes where it is better not to be conscious or be intelligent to further the species, then that will happen.
Eh bien, écoutez, sur ces mots-là, nous allons nous arrêter sur l'excellente remarque de Ian MacDonald, parce qu'en fait, on est déjà en dépassement de temps. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de retrouver nos amis, pour les uns, Du côté de l'entrée autour des robots et des stands y afférents, Gérard et Yann, vous les retrouverez certainement en dédicace dans les minutes qui viennent, sinon encore un petit peu dans l'après-midi, je suppose. Je tiens également à remercier le traducteur pour son travail, puisqu'on a toujours besoin de lui. Et puis, je ne peux que vous inviter à rester pour écouter la rencontre avec Scott Westerfeld, qui sera animée, je crois, par Étienne Barillet. Ça devrait être très bien. Ensuite, il y a encore deux conférences cet après-midi. On parlera de manga et il y aura du cosplay avec beaucoup de déguisés. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup. Au revoir.